Plus d'un sous les lambris du pré-catelan songèrent à de telles situations, sans doute pour en avoir vécu. Mais on ne parlait ni de poule ni de grue. Que de mots pour de telles femmes. Dans la haute société, il s'agissait de courtisanes, de cocottes, de demi-mondaines, d'étaillires. Pour ne pas dire putain, on usait de litote, péripatéticienne, femme de petite vertu. Totalement obsolète, catin était le mot utilisé par Jamel. Le bon peuple ne s'embarrassait pas de faux-semblants, garce, femme publique, morue, pétasse, poufiasse, prostitute, roulure, traînée. Dans les banlieues, les garçons étaient sans pitié vis-à-vis de leurs sœurs qu'ils enfermaient, cloîtraient pour qu'on ne dise pas d'elles « La mec, elle te les chauffe grave, elle allume bien !» Ce qui ne les retenait nullement de participer à d'odieuses tournantes chosifiant les filles. Soupçonnées d'être des filles de joie dès qu'elles mettaient une jupe, elles n'avaient pas navigué. Dans le roman, Rachel Zézette, elle, appelle Robert Bobet. Elle le trompe, capable quelquefois même d'expédier une passade, après qu'elle l'a expédié faire une course. Plus tard, Fabrice fit vivre, comme si l'on y était, la scène où Saint-Loup gifle un journaliste qui refuse d'éteindre le cigare dont la fumée fait mal à son ami. Sa victime ne riposte pas, et ses confrères font preuve d'une absence de solidarité hilarante. L'un avait aussitôt détourné la tête en regardant avec attention du côté des coulisses quelqu'un qui évidemment ne s'y trouvait pas. Le second fit semblant qu'un grain de poussière lui était entré dans l'œil et se mit à pincer sa paupière en faisant des grimaces de souffrance. Pour le troisième, il s'était élancé en criant « Mon Dieu, je crois qu'on va lever le rideau, nous n'aurons pas nos places. » Au passage, les plus attentifs purent noter que Proust signale d'abord que les journalistes sont au nombre de trois, mais qu'à l'issue de cette scène, ils sont un de plus. Les plus grands auteurs ne sont pas à l'abri de petites incohérences. Quelques minutes plus tard, le même Saint-Loup, avec ses poings, donne une raclée à un homme qui, dans la rue, lui fait des propositions. Et puis, à l'occasion d'une matinée chez Madame de Villeparisis, l'auditoire, ça peut toujours servir, a pris la différence entre les publics croisés dans un des salons. De troisième ordre, bourgeoisie, noblesse de province ou taré. Ou, gens élégants et snobs qui ne sont pas obligés d'y venir par devoir de parenté ou d'intimité trop ancienne. La vieille dame, déclassée, déchue, amoindrie, n'appartenait plus à la seconde catégorie. Les scènes se succédaient ainsi, plongeant les hôtes du Lagardère Paris Racing dans une enivrante quiétude, un bien-être à mettre au crédit autant de l'interprète que de l'auteur. Pendant la pause du buffet proposé par la maison Pou, les invités se réunirent autour d'un jambon en croûte, sauce périgueux, et d'un vol au vent financier aux truffes. Les desserts venaient de chez Ladurée, macarons bien sûr, mais aussi religieuses, divins et Saint-Honoré. Certains purent entendre le débat que France Inter avait organisé, rebondissant sur l'échange entre le « tu » et le « vous » de la veille. La radio s'était convaincue que le premier céderait le pas devant le second, par imitation des usages dans le grand monde. Curieusement, elle s'appuya sur ce dialogue qui appelait au tutoiement, mais dans le service public de l'audiovisuel, on a parfois l'esprit un peu tortueux. Vous allez voir, avait annoncé un éditorialiste qui, à l'antenne, fustigeait en toute occasion le faux semblant des bonnes manières, mais qui, en privé, s'horripilait quand, le soir, il voyait des hommes porter autre chose que des chaussures noires au prétexte du Never Brown After Eight. Vous allez voir que nos sauvageons, il avait souvent quelques références de retard, vont adopter le vouvoiement dans leur vie sans repère et qu'ils lolent du prompt en y mettant les formes la plus exquise des politesses. Il se trompait, mais par l'usage d'autres formes qui n'allaient pas tarder à l'estomaquer. À la réception de Madame de Villeparisis, où l'on revint pour la séquence du soir. On parle des ascendants. Je n'ai jamais vu mon père avoir son chapeau chez lui, excepté, bien entendu, quand le roi venait, puisque le roi étant partout chez lui, le maître de la maison n'est plus qu'un visiteur dans son propre salon. On évoque les absents, la mondaine Madame le Roi, qui, interrogée sur l'amour, répondit une fois « Je le fais souvent, mais je n'en parle jamais. » On croise un archiviste, un historien, solennel et intimidé. Bloch, maintenant jeune auteur dramatique. Trois vieilles dames, parques à cheveux blancs, bleus ou roses, qui avaient filé le mauvais coton d'un nombre incalculable de messieurs. On révèle comment les hôtesses se chipent leurs invités. On admire certains portraits, l'original de la copie qui est au Louvre. On accueille la duchesse de Guermantes, qui avait profité de l'indépendance de son torse pour le jeter en avant, avec une politesse exagérée, et le ramener avec justesse, sans que son visage et son regard eussent paru avoir remarqué qu'il y avait quelqu'un devant eux. Le Grandin, pas invité. L'excellent écrivain G. On apprend l'art de la réception, chez Orian. Considérer les gens de talent comme des relations familières, dont le talent ne vous éblouit pas, à qui on ne parle pas de leurs œuvres, ce qui ne les intéresserait d'ailleurs pas. Ainsi, elle mettait une sorte d'élégance quand elle était avec un poète ou un musicien à ne parler que des plats qu'on mangeait ou de la partie de cartes qu'on allait faire. Cette réserve était simplement de bon ton. Arrive le comte d'Argencourt, en boitant. Deux jeunes gens, le baron de Guermantes et son Altesse le duc de Châtellerault, à qui Madame de Guermantes dit « Bonjour, mon petit Châtellerault ». D'autres personnages seraient entrés encore si ce n'était déjà la fin. Ce serait pour le lendemain. La revue fut applaudie à tout rompre et Fabrice se retira, non sans s'être à plusieurs reprises incliné en signe de remerciement.